Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Il y a un verset que j'aime beaucoup. Dans la Bible, il y en a deux que j'aime beaucoup en ce moment, mais il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est que Dieu a la capacité de créer ce qui n'existait pas. Vous croyez ça? Et ça, je le fais, cette phrase, c'est ma phrase. Et ce qui est écrit là derrière, est-ce qu'un pauvre peut être riche? Ben oui, sinon il ne serait pas pauvre. Est-ce que le pauvre est biblique? Question. Oui ou non? Dur. Je vais essayer de vous aider ce matin. Je ne crois pas à la pauvreté, ce n'est pas biblique. Je ne vais pas vous parler d'abondance, ça m'énerve. Je ne vais pas vous parler de la pauvreté en esprit, ça m'énerve aussi. Je ne vais pas vous parler non plus du danger de l'argent, c'est énervant. Il y a beaucoup de choses qui sont énervantes, parce qu'on veut sacraliser et trouver des petits trucs et des petites clés qui vont nous permettre de dire « Donne ta dîme, tu vas être millionnaire !» Franchement, est-ce que c'est pas parfois un peu le comportement que l'on a? Et il y en a, j'ai entendu des gens qui disent « Ah, mais j'ai donné ma dîme, mes offrandes, j'ai fait tout ce que je pouvais et j'arrive pas !» Ah, c'est parce que tu manques de foi. On n'a pas un peu cette tendance à trouver des trucs et des machins pour essayer de trouver la clé qui nous libère? Et c'est pas le principe divin. Sur la notion de la pauvreté, je ne crois pas que notre société a besoin de pauvres, sauf pour qu'ils deviennent riches. Alors, on a deux choix. Soit on est soumis à une économie totalitaire religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai l'impression, pour moi, qu'on est dans une sorte d'économie darwinienne. C'est le plus gros qui bouffe le plus petit. Et dans notre mentalité en tant que chrétien, on a un peu aussi tendance à croire que c'est comme ça. Alors, on est dans un temps d'église, que ce soit le matin, le soir, ou un autre, une réunion de prière. Ah, le Seigneur, vraiment, il m'a enrichi, j'étais hyper abondant, etc., etc. Puis à un moment donné, dans la semaine, on a une dette, on a des poursuites, on a un problème financier. On dit, Seigneur, au secours! Et on vit et on s'habitue à vivre soit avec des dettes, soit avec des crédits, soit avec une mentalité de pauvre. Alors, et la société nous enseigne ça. C'est qu'en fait, le monde séculier nous apprend à entretenir la pauvreté. C'est-à-dire, vous avez besoin de quelque chose, un attel. Ah oui, il me faut un attel, un téléphone mobile. J'en ai déjà un, mais il m'en faut un autre. C'est pas grave, tu fais un crédit. J'ai une voiture, mais il m'en faut une deuxième. Pas grave, tu fais un crédit. J'ai déjà une télévision, donc c'est une grosse boîte, moi il me faut un écran plat. Pas grave, tu fais un crédit. Et le crédit, je dis pas qu'il faut pas acheter à crédit. J'ai acheté une maison, et j'ai fait un crédit. Mais souvent, notre démarche est basée sur un point important, pas qu'il me semble, qui est quelque chose de courant et de récurrent. Basé sur le matérialisme et la consommation. Plus vous consommez, moins vous avez la foi. J'ai entendu il y a quelques jours à la radio un philosophe qui disait que, exactement cette phrase, le matérialisme et le consumérisme suppriment la croyance. C'est assez étonnant comme chose. Et on pourrait se poser la question si tout le matériel que nous avons est nécessaire. Vous savez, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps à l'école de management hôtelière de Lausanne, et dans le débat, je parlais de marketing, donc dans le débat, il était dit, mais de toute façon, ce que vous présentez, je présente un concept qui est assez nouveau, ça s'appelle le marketing non marchand, mais qui est basé sur la relation du don et de l'humain. Oui, mais vous savez, vous dites ça, mais au niveau international, on n'a pas d'autre choix que de créer des besoins. Et de provoquer des désirs. Posons-nous la question si on a un autre choix que finalement, de créer des besoins. Regardons bien autour de nous. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone mobile? Franchement, non. Quel est le besoin fondamental? Communiquer. Est-ce qu'on a besoin de s'abonner à Facebook? Il y en a qui ont dit oui, là. Non, pas forcément. J'y suis, mais pas forcément. Posons-nous la question si l'ensemble des outils que nous avons sont vraiment des réponses à un besoin fondamental. Non. C'est un élément de confort. Mais le confort ne répond pas à un besoin fondamental qui est celui de la production ou de la productivité pour lesquels nous sommes nés. Nous sommes nés pour produire. Nous sommes nés pour multiplier. Et la société nous apprend une chose. C'est d'une part à accumuler des biens sans effort et de vivre sur des additions plutôt que des multiplications. J'ai plus, 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 plus. La Bible dit, sème, tu récoltes. Dans la société, on nous apprend, on nous enseigne, non pas que c'est mauvais, mais qu'il n'y a pas d'autre modèle et pas d'autre choix. Je donne souvent des enseignements dans des écoles ou universités, ou dans le milieu professionnel. Les gens me disent, mais quelle solution avez-vous? Il n'y en a pas d'autre. On a toujours fait comme ça. Vers fin 2008, suite à la crise financière, dans une émission radio, le journaliste pose la question à une femme socialiste qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes financiers? Oh, ben, il faut encourager les consommateurs à consommer plus. Le journaliste me regarde et me dit, vous êtes d'accord? Je dis, non, c'est idiot. Oh, vous êtes dur. Ben, je dis, oui, mais c'est ça qui nous a plongé, qui nous a fait plonger. Alors, pourquoi consommer à nouveau? Et puis, cette personne, assez connue, me dit, hors antenne, dit, vraiment, vous êtes dur. Je dis, mais vous vous rendez pas compte? Elle me dit, mais me rendre compte de quoi? Ben, je dis, vous n'avez aucun projet. Elle dit, mais nos parents, nos grands-parents ont toujours fait comme ça. Puis grâce justement aux moyens matériels, on a trouvé un certain confort. Ah, je dis, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on a répondu à notre besoin? Lequel, elle me dit? Je dis, mais d'être heureux, de trouver le bonheur, pas simplement d'acheter. Ah, mais écoutez, je sais pas comment on fait, ben je dis, moi j'ai des solutions. Ah bon, vous dites? Je dis, donnez-nous un rêve, une utopie. Donnez-nous un moyen de vivre et de créer des choses qui n'existaient pas, plutôt que d'être comme des moutons de panurge et de faire comme tout le monde. Vous savez, quand dans la société, il y a une chose qui est assez intéressante, sauf erreur, j'ai entendu ça d'un psychologue, d'un psychiatre, qui dit que finalement, le psy va nous aider à soutenir et à passer notre malheur sans nous parler de bonheur. Vous n'avez pas remarqué ça? Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est difficile, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'autre solution. Donc tu es pauvre, reste pauvre. T'es idiot, reste idiot. En clair, c'est ça. Alors il dit, non, moi je suis chrétien, et puis moi je crois à la foi, j'ai la foi, et puis il va y avoir je vais être milliardaire, etc. Mais là aussi, c'est une erreur. Un riche peut être pauvre, vous le savez ça. Et la peur est le premier élément qui va faire que nous n'arriverons pas à être riches. Quand on a trop peu, eh bien on va tout faire pour avoir. Comment peut-on savoir que l'on a trop peu? Ben, quand on se compare. Ah, mais l'autre, il a plus que moi. Vous savez comment j'ai appris, moi, à réussir, et je pense réussir un petit peu, à imiter ceux qui réussissent, et pas à jalouser ceux qui réussissent. Une histoire vraie. Vous aimez les petites histoires? Un jour, je demandais à un ami américain, quelle est la différence entre un Européen et un Américain? Et c'était autour de l'argent. Et puis, il me dit, c'est simple, je l'ai vécu. Il dit, un jour, il y a un couple d'Américains qui invite un autre couple, et puis qui arrive, et elle Elle arrive avec beaucoup de bijoux, super manteau, lui arrive, sort de sa voiture, grand luxe, etc. Et puis le couple d'hôtes dit, ils se regardent tous les deux, ils disent, vraiment, c'est des gens doués ça. Hein? Et dit, on va leur demander comment ils font pour réussir. Même chose en Europe. Un couple accueille des gens, ouais, visiblement bien, bien riches. Et puis le couple d'hôtes à se regarder, t'as vu les salauds qui se payent? Véridique. Quand on a peur, quand on n'a pas assez, on va dire, mais l'autre, il a plus, il n'est pas juste, il n'est pas chrétien, il donne pas. Mais oui, mais le problème, c'est quand il en a trop, ça, il pose un autre problème. Il a peur de perdre. Et donc, il fait la course où il n'a pas assez de temps pour gérer son argent. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit à ce jeune homme riche, viens et suis-moi. En fait, il lui a dit quoi? Ne t'appuie pas sur cette richesse, donne-la. Et voilà une des clés que Jésus a donnée à un riche pour qu'il soit encore plus riche. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas capté, comme on dit. Il n'avait pas imprimé. Que le principe de la richesse, c'est de savoir qu'il y en a un qui pourvoit. Alors, on pourrait se dire, vers où on veut aller? Alors, qui pourvoit? On peut se dire, voilà, il faut que je trouve absolument tous les moyens nécessaires pour gagner, ou alors je vais essayer de me réfugier en Dieu. Quand Dieu nous dit, quand on se préoccupe, je dirais, de notre problème quotidien, Dieu dit quoi? Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Lire la Bible? Prier? Non. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est un pays. Et dans un pays, vous avez des montagnes, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez des enseignants, etc. Vous avez tout un univers qui vous permet d'y vivre. Quel est cet univers dans le royaume de Dieu? Il y a des clés. Et une des clés, c'est de la façon dont on va développer notre richesse. Lorsque, par exemple, je dis, Seigneur, donne-moi un travail, et que j'ai ce travail, et tout d'un coup, je suis licencié. Je vais tout faire pour trouver un autre travail. Pourquoi faire? T'as pas besoin de travailler. T'as besoin de moyens pour vivre. Et Dieu peut pourvoir, soit par un travail, un emploi, soit par un don, un milliardaire qui peut te donner de l'argent, pourquoi pas. Non, sérieux. Une fois, mon épouse disait, tiens, j'aimerais bien un piano, il faudrait qu'on mette de l'argent de côté pour en avoir. J'ai dit, non, pourquoi? Ben, il faut s'en acheter un. Ben, non. Mais il nous faut un piano. Ben, oui. Eh ben, on va demander au Seigneur. Et puis, on a eu un petit débat comme ça, ensemble. Et puis on a prié et dit, Seigneur, merci pour le piano. Et puis un jour, quelqu'un nous dit, tiens, j'ai un piano pour toi. Il est venu, je ne sais pas quoi, 2-3 semaines après, à peu près. Et un super piano, tout neuf. Le magasin du Seigneur, il était bien fourni. Et pourquoi faut avoir un piano moche, dégueu, enfin sale, et puis qui marche pas? Excusez-moi, on est dans une église. Pourquoi avoir ça? Est-ce que nous avons un petit Dieu qui va nous donner de petites choses à moitié, avec une demi-mesure? Mais comment peut-on vivre la création de Dieu si on ne rentre pas dans ses principes, ses clés? J'appelle ça les clés du royaume de Dieu. Quelles sont les clés? Et il nous donne tout un trousseau. Mesurez votre succès par tout ce que vous donnez et non pas ce que vous allez acquérir. Un petit exemple. Dans les cours que je donne souvent des cours sur le marketing non marchand, et une des clés, c'est celui qui donne reçoit. J'enseigne ça à des entreprises. C'est une clé. Donnez, vous recevrez. Les gens, une fois à la fin d'un cours, ils me disent, vous êtes pasteur? Ben, je dis non. Ils disent, parce que c'est vraiment la Bible ce que vous dites. Je dis oui. Et puis un jour, le Saint-Esprit, je crois qu'il m'a un peu bousculé. Il m'a dit que tu parles du don, de donner, etc. Qu'est-ce que tu donnes, toi, au niveau professionnel? Oh, je donne beaucoup. Je me consacre aux clients. Tu tu donnes pas là. Bien, le Saint-Esprit m'a montré m'a fait montrer une petite scène de vie. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais ce métier. J'ai eu deux ou trois entreprises. Et puis, dans le temps que j'étais en France, j'avais une agence de pub et je faisais tout pour ne rien montrer. Pour avoir des clients, mais sans rien dire. Et surtout ne pas montrer toutes mes compétences, mon know-how, comme on dit. Notre gagne-pain. Il ne faut surtout pas communiquer ce qu'on sait. Nos astuces, nos techniques, nos outils, etc. C'est le principe. Et donc on fait tout, on va à la pêche aux clients, comme on dit. Et on fait de la prospection. Vous connaissez un peu ce langage pour ceux qui sont commerciaux? Qui est dans le commerce là? Il connaît un peu ça. Et puis, il y a quelques années, le Seigneur me dit, mais oui, tu donnes quoi au niveau de ton boulot? Je donne pas, moi j'attends qu'on me paye. C'est un peu ça hein, qu'on veut. Hein. Et finalement, tu as travaillé. Et puis j'ai créé un site internet professionnel, donc il y a 4 ans. Et si vous allez sur ce site, je dirais, vous avez tous les moyens pour développer une stratégie, faire du marketing direct, enfin gagner des sous, enfin tout y est dedans, c'est gratuit. Et c'est pourtant ce que je vends. C'est dur, hein. Et j'ai commencé à donner, à donner, à donner. Et peut-être pour ceux qui sont commerciaux, vous comprendrez, je n'ai jamais cherché un client. Ils sont toujours venus tout seuls. Depuis 4 ans. Je n'ai jamais fait de pub. J'ai même pas une carte de visite. J'ai une photocopie. J'ai pas. J'ai créé ce site. Il y a plus de 6000 visites par mois. Dans le monde entier. Je sais pas comment c'est possible. Je fais pas de pub. Et ce qui se passe, c'est que les gens, finalement, me redonnent. Je dis, mais c'est super ce truc-là. Donc je vais donner. Je vais commencer à donner. Regardez cette petite phrase que j'aime beaucoup. Le dû, le don et les patates. Le dû, c'est quoi? Seigneur, j'ai donné ma dîme, donc tu me dois. C'est un contrat. Et on aime bien les contrats. Si j'ai rempli mon contrat, il faut que ça marche. Non? C'est normal d'avoir un contrat, quelque part. Mais souvent, ce contrat qui est donné est une condition imposée sous forme de totalitarisme. Je signe un contrat d'embauche, donc l'employé est redevable envers moi, en oubliant que Dieu, c'est lui qui pourvoit. Ce qui veut dire que quand je perds mon boulot, je ne vais pas aller cogner mon employeur, mais je vais dire merci Seigneur, parce que tu as certainement une autre issue. Pourquoi on fait des contrats de mariage ou des contrats de je sais pas quoi? Parce qu'on en prévoit de se séparer. Ou on pense qu'il va y avoir un problème. Quand on fait un contrat de vente, il y a souvent 150 000 pages. Au cas où. Dans le principe du don, c'est tout autre chose. Je donne tout. C'est une alliance. Et le don est plus fort que le dû. Plus je donne, plus je reçois. Mais on donne pas n'importe comment. Moi, je donne pas aux pauvres. Jamais. Je donne qu'aux riches, moi. Mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Je suis peut-être un peu bizarre, mais moi, quand j'ai des graines de blé, ils me disent que je suis paysan, puis je vais semer du blé là-dedans. Sur ça, là. Puis je vais mettre des engrais. Je vais prier. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça pousse. Mais c'est une table pauvre. Elle ne peut pas. Par contre, si je sème dans de la terre, ça va marcher. Même si la terre, elle est sale. Même si elle est moche. Même si elle n'est pas entretenue. Même si elle sent mauvais. Même si c'est un clochard. Je peux investir chez lui s'il est riche dans sa tête. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. À celui qui a, je donne. Moi, ça m'a travaillé. Ça m'a énervé pendant un temps, cette phrase. C'est incroyable. À celui qui a, je donne. Et celui qui n'a pas, j'enlève même ce qu'il a. Ouh, je dis, c'est dur, ça. Attends, il faut vraiment qu'il se convertisse, lui. Tu vois. Mais on pense parfois ça. C'est pour ça que je trouve que le pauvre n'est pas biblique. Et puis, il y a des gens qui me disent, oui, mais ça, c'est une mentalité chrétienne. Je dis, c'est pas une mentalité chrétienne du tout. C'est une mentalité du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est même pour les non-chrétiens. Moi, je connais des non-chrétiens qui ont une foi, je vous dis pas, c'est impressionnant. Hein. J'ai, je le dis souvent, je dis pas le nom parce que, enfin pas, des voisins paysans. Puis un jour, il y en a un qui me dit, je vais le voir. Puis il dit alors ça, je dis ouais, les patates, elles vont bientôt donner, hein. Ah bon? J'ai dit, ben pourquoi? Ben parce que j'ai donné tout mon temps. Et pourquoi t'as donné ton temps? Ben parce que la terre va me le rendre. Elle va me donner. On ne parle que de dons. Et pourtant, c'est de la production. Et pourtant, c'est que de la production. Il ne parle que de dons. Je me suis donné, j'ai donné. Et on donne tout. Et il a tout donné. Oui, mais il y a le risque du mildiou, là, vous connaissez les poisons, enfin des bestioles qui me bouffent tout. Alors on met des engrais, etc. On fait tout pour protéger. Mais dans la mesure où on donne vraiment bien, on reçoit bien. De quelle façon donne-t-on? C'est ça la question. Alors nous on donne, mais on met beaucoup plus d'engrais qu'on ne donne. Un peu de prière, un peu d'intercession, faire prier pour quelqu'un, enfin, quelqu'un prie pour moi, je vais lire la Bible, je vais jeûner, je vais faire plein de trucs. On fait plein d'engrais, on veut des engrais au maximum pour donner le moins possible. C'est le principe des cultivateurs industriels. Vous savez, des blés couchés, vous avez déjà vu des blés couchés, hein? On se dit, mais ça c'est le vent qui les a poussés. J'ai demandé à un paysan justement, c'est quoi? Ah ben c'est parce qu'il a mis trop d'engrais. Trop d'engrais. Et pourquoi? Ben parce qu'il veut que ça pousse vite. Et pourquoi? Ben pour vendre mieux. Ouais, mais c'est pas très bon, hein. Et dès qu'il y a un petit problème, oh Seigneur au secours, il y a l'ennemi qui m'attaque! C'est pas un peu ça? Qu'est-ce que t'as à donner? Vends tout ce que t'as. Donne tout ce que t'as. Et suis-moi. Alors, ne donnez pas, oh là là, Seigneur, je te donne vraiment, je me secours. Je suis un peu méchant, mais je me donne à toi, vraiment, Seigneur, je donne tout, et puis vous dites ça en pleurant, etc. Mais arrêtez, faut pas pleurer, faut rire. Faut donner parce que le don est une puissance qui vous enrichit. Il faut pas être trop spirituel. Parce que le monde séculier vit exactement sur le même principe. J'ai pas besoin d'être chrétien pour être paysan, semer un grain et puis d'en avoir 60 si c'est du blé. Mais dans le royaume de Dieu, il nous apprend à changer de mentalité pour que nous soyons des hommes et des femmes prophétiques dans la société. De quelle façon la société séculière, le monde qui nous entoure, peut bénéficier de cette règle? Moi, je cherche jamais à ce que les gens deviennent chrétiens, surtout pas. Je cherche à ce qu'ils sèment leur vie dans la bonne terre. Et le reste, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. De quelle façon je vais semer? Alors, Jacqueline a quelques petites... Tu as des deux petites... même plus, hein,
j'en
témoignages.
J'en ai quelques-uns, mais... Je vais vous encourager aussi quand Eric dit « Va, vends tout ce que tu possèdes. » En fait, jeune homme riche, moi, j'ai fait ça un jour dans ma vie. J'ai tout laissé à Dieu. Et puis, en fait, je vais donner un témoignage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas connu après de difficultés, mais je voulais... Ouais, témoigner que Dieu ne nous a jamais laissés, en fait. Et Dieu a toujours pourvu. On dit que j'avais entendu des prédications qui disaient que quand on capitalise dans le ciel, Dieu s'en souvient. Et en fait, dans plein de moments de notre vie, j'ai vu la fidélité de Dieu, justement. Et un jour, quand on était à Paris, voilà, c'était une période difficile pour nous, et puis on n'avait plus rien. Dans le sens, j'étais allée chez mes parents, je suis rentrée, puis j'ai dit, Seigneur, ben, tu vois, ben, voilà, j'ai plus rien. Je sais pas comment on va donner à manger à nos enfants.
Et t'étais dans la voiture et tu disais...
J'avais fait une étude sur comment Dieu pourvoira et j'avais dit, ben Dieu, toi tu es mon père en tout cas, toi tu sais que j'ai besoin, donc en fait je te le remets. Et je suis rentrée chez moi et quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ouvre le frigo, il était plein, le congélateur plein. Je me suis dit, oh là là Seigneur, c'est pas possible, on avait à manger pour 3 semaines. Bon, je pense que des chrétiens étaient venus, il y avait une chrétienne qui logeait chez nous parfois et puis elle avait la clé, donc...
On suppose que c'est
on
ça.
On suppose, mais voilà.
Mais ce qui est sûr, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'en fait, on rentrait d'un déplacement et puis on dit, ben Jacqueline, tu avais dit, ben on n'a plus rien dans le frigo. On n'avait pas de quoi manger le soir même.
Et puis, mon Dieu, en tout cas, il entend quand on lui parle directement, hein, c'est notre Père. Et puis, une autre fois aussi, Eric, ben voilà, il travaillait à Paris et puis il me dit, ben tu sais, j'ai vraiment besoin de chaussures. puis des bonnes chaussures. Mais j'ai dit, mais c'est cher des chaussures. J'ai dit, mais enfin, tout cas, on peut dire à Dieu hein, que tu as besoin de chaussures déjà. Et puis en fait, on va à une réunion à l'église, et puis il y avait un prédicateur qui était là justement, puis il parlait aussi comment on pouvait capitaliser dans les cieux. Puis il disait aussi, ben, pourvoyez aux besoins les uns des autres en fait, et soyez attentifs, s'il y en a un qui a besoin de quelque chose, vous lui donnez, puis vous recevrez en retour, lui, il peut aussi vous donner quelque chose. Et puis, ce prédicateur était venu, il dit, ben voilà, moi je suis venu et je donne les clés de ma voiture au pasteur. Il avait reçu une autre voiture, puis il donnait les clés de sa voiture au pasteur.
Il le fait devant tout le monde. Voilà. Hein. Il prend sa clé, tac.
Après, il dit, ben voilà, j'ai d'autres choses, je suis venu avec d'autres choses. Et puis, et d'ailleurs, je suis venu avec une paire de chaussures. Je regarde Eric, je suis mort. Et puis, alors Eric me dit, oh, mais non. Puis après, il me dit, mais en fait, c'est une paire de chaussures de taille 45. Et je dis, Eric, 45, en fait, qui est-ce qui a besoin de chaussures?
Parce qu'en fait, personne ne voulait ne lever la main. Je dis, bon, il y en a d'autres qui ont besoin, c'est ça.
Et puis,
clair, je n'avais pas envie de dire ça devant tout le monde. Elle l'a dit, en plus, 45, fillette.
Puis en fait, ben voilà, Eric, c'est les chaussures qu'il a encore maintenant, donc
elles
ont duré.
Elles sont encore là. Ça fait 15 ans que je les ai.
Enfin, voilà, pour dire que ben, Dieu pourvoit nos besoins quand on met la priorité pour son royaume aussi. Ben, Dieu entend nos besoins, connaît nos besoins.
Absolument. Voilà. Merci.
Bon, j'avais un autre témoignage, mais je vais continuer peut-être maintenant.
Oui, bah, va, plus que moi. Ouais.
C'est aussi, dans ce qu'on vit là actuellement, dans la ferme où on est, en fait, je sais que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et en fait, il y a eu une période, ben, on a accueilli deux ados en rupture, c'était un accueil d'urgence, on les a prises, même si notre maison, si vous la voyez, c'est pas le confort suisse, on est vraiment en travaux.
Et c'est confort français.
On les a prises, et puis, moi, c'était super, mais en même temps, à un moment donné, je dis, mais Seigneur, maintenant, ben voilà, je sais pas comment on va manger, là, cette semaine. Bon, je crois qu'on va pas pouvoir finir la semaine, donc maintenant, je te remets ça.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas le moyen pour nourrir deux personnes.
On était un petit peu soutenu par le social, mais ben voilà, il y a des dépenses quand même. Et puis on, voilà, on fait pas d'extra, pas trop, mais on vit bien quand même. Et puis on accueille un prédicateur américain et qui vient. Puis en fait, il venait prêcher dans un groupe de maison dans la région. Et donc on va avec lui. Et puis je voyais là l'offrande. Je dis oh là là, mais tout ce qu'on va lui donner. Puis je disais, mais Seigneur, toi, tu sais, ben nous, on n'a plus rien, en fait. Puis en fait, j'ai parlé à personne de ça. Et en fait, donc, le prédicateur logeait chez nous. Et puis le lendemain matin, donc, je l'accueille pour le petit déjeuner. J'avais tout préparé. Il descend avec l'enveloppe de l'offrande. Il me la met sur la table. Il me dit, Jacqueline, c'est pour toi. Hein? J'ai dit, mais vraiment, Dieu est glorieux, quoi. Je ne lui ai pas dit, moi, en fait. Hein, je n'ai rien dit au prédicateur. Et voilà, j'avais ce témoignage-là. Puis aussi pour dire que si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où j'ai accueilli une dame qui était très prenante. J'ai vécu des choses merveilleuses avec elle, mais j'avais même plus le temps. Enfin, j'aime pas trop traîner dans les magasins, mais de chercher des vêtements pour moi et tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben, Dieu, tu sais. Puis en fait, dans cette période où je me suis occupée d'elle, eh bien, ma fille qui me dit, maman, tu sais, j'ai un pantalon pour toi. En fait, j'ai maigri. Peut-être qu'il peut aller pour toi. Elle me le montre, je dis, incroyable, je dis, mais vraiment, c'était le pantalon que je voulais aller chercher dans les magasins, le même style. Et puis aussi, après, ben, cette dame que j'accueillais, elle m'a donné un sac à main, des bottes, voilà. J'ai pas eu besoin d'aller courir les magasins, mais Dieu a pourvu d'une autre manière. C'était ça que je voulais, voilà, pour encouragement.
Merci. C'est ce que dit Jacqueline, c'est aussi cette phrase-là. Ce que il me semble important de bien comprendre. La force du riche, c'est de donner. Ce n'est pas d'accumuler. D'accord? Dans le monde séculier, on nous apprend que la richesse, c'est celui qui a plus. D'accord? Dans le principe divin, celui qui est riche, c'est celui qui donne. Et le principe du pauvre et de la pauvreté, c'est de réclamer et de jalouser. J'ai pas le temps maintenant, mais j'ai à peu près entre 12 et 14 clics pour comment rester pauvre. C'est râler toujours après les autres, jalouser. Dites que c'est la faute des autres, dites que c'est la situation qui est comme ça, c'est que les gens ne m'aiment pas, c'est que surtout ne croyez rien, n'investissez jamais, demandez toujours aux autres de vous aider, etc., etc., etc. N'investissez surtout pas, si vous voulez être pauvre, restez, bougez plus. vivez de subventions, ça va être très très bien pour le reste de votre vie. Mais le principe du riche, c'est la mentalité du riche. Qu'est-ce que tu donnes? Et je vais vous montrer quelques petites phrases intéressantes justement à ce niveau-là. La Bible nous dit que pour s'enrichir, il faut commencer par donner. Et vous allez voir, c'est pas ça, si simple que ça. La veuve de Sarepta qui rencontre Élie, Élie va le voir, va la voir. Élie venait de vivre à un certain moment pas mal de miracles et Dieu lui dit d'aller voir cette personne. Cette personne, il savait que cette personne n'avait pas un centime. Et va lui demander, donne-moi à manger. Imaginez, vous allez voir, vous voyez un SDF dehors, vous avez, c'est l'heure de midi, puis vous arrivez vers lui, il dit, vous êtes super bien habillé, vous sortez de votre Mercedes devant lui, et puis vous lui dites, donne-moi à manger. Hein? Je ne sais pas si on arrivera à le faire. En fait, c'est ce que Dieu a demandé à Élie. Va voir cette pauvre petite fille, petite dame, et qu'est-ce qu'elle dit? Je peux pas te donner à manger. Puis elle a commencé à dire, mais pétard, mais tu te rends pas compte. Elle dit, mais Seigneur est grand, mais toi, qu'est-ce que tu me demandes? En clos, elle s'est énervée. J'ai qu'un peu de pain et un tout petit peu d'huile. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, Élie lui a dit, cool, fais ce que je te dis et tu vas voir. Et elle a fait, avec le peu qu'elle avait. Et cette période-là, quand il a rencontré cette veuve, c'était une période de famine. Et pendant toute la durée, juste avant que la fin de la famine, elle a eu de quoi manger. Elle était pauvre. Oh, c'est vrai que t'as laï. T'es une pauvre. Vraiment, c'est vraiment... Oh, c'est très dur. T'es dans le social. Mais c'est vraiment difficile. On va prier pour toi, pour que le Seigneur te bénisse. Non ! On va te montrer comment investir, comment donner, comment gagner. Alors, attention, je dis pas que ceux qui sont sociaux à Haïti, c'est pas bon, hein. Mais, je veux pas les critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est endetté, quand on vit dans des dettes, on a besoin de penser autrement. Ok, une autre. Une feuille qui était endettée, à nouveau avec Élie. Cette femme a eu son mari qui est décédé. Il y avait des créanciers qui ont dit, si tu ne me payes pas tout de suite, je vends tes deux enfants comme esclaves. Et elle a poussé des cris, elle a cherché Élisée. Elle dit, mais tu es où? Tu fais comment? Qu'est-ce que c'est? Aide-moi! Et puis, qu'est-ce qu'a dit Élisée? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que t'as? Couchou. Elle dit, attends, je viens voir Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi. Et puis le Seigneur lui dit, qu'est-ce que t'as? Hein? Vous savez, quand on est en France, vous êtes au chômage, je sais pas, il y a des Français qui ont été au chômeur. En France, dès que vous arrivez, vous êtes chômeur, vous avez perdu votre boulot, la première chose qu'on vous dit, voilà tous vos droits pour rester au chômage. C'est incroyable. Et puis, donc, cette veuve dit, mais, attends, j'ai pas grand chose, j'ai un petit peu d'huile. Et Élisée lui dit, va chercher un maximum de pots. Attends. Imaginez la scène. Vous êtes endetté. Vous avez le fisc qui vous poursuit. Vous êtes en poursuite. Demain, il y a l'huissier qui vient vous foutre dehors. Et vous avez prié, puis il y a un prophète qui vient dire, mais écoute, va chercher, c'est une maison, vous êtes dans une maison, va commander des briques pour rénover. Je sais pas, ou construire un mur, ou va acheter une grande salle de bain, ou une grande cuisine. Il vous dit ça. Attends, t'as pas compris là. J'ai le fisc qui est derrière moi. Fais ce que je te dis. Elle le fait avec foi. Je sais pas comment elle a réussi, mais elle l'a fait. Et vous savez l'histoire. C'est que le peu d'huile qu'elle avait, elle a versé cela dans d'autres pots. Et elle en a eu autant que ce qu'elle a cru. C'est-à-dire qu'elle a eu en réserve. Si elle avait 150 pots, eh bien, il y a eu 150. S'il y en avait 2 millions, elle serait remplie, les 2 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Comment donne-t-on? Alors, c'est pas fini, il y en a plein d'exemples, hein, comme ça. Le serviteur d'Élisée, Élisée avait réuni des prophètes, et puis à un moment donné, ils étaient une centaine de personnes. Et puis, Élisée demande à son serviteur, son compagnon, il dit, maintenant, il faut les nourrir. Je dis, mais attends, j'ai que 20 pains et un sac de grains. Et il dit, mais comment ça les donner? Et en commençant à les donner, tout le monde a eu à manger. Comment ça donner? Vous connaissez aussi l'histoire des apôtres. Alors ça, pour moi, c'est la meilleure, celle-là. Les gens sont super enthousiastes. Il y a eu une soirée guérison et miracle. Tout le monde était guéri miraculeusement. C'était super, alléluia, etc. Et puis, le prédicateur, il s'appelle Jésus-Christ, qui dit à tout le staff, il dit maintenant, il faut leur donner à manger. Ah non, 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 c'est le staff, pardon. C'est le staff qui a dit avant. Il dit, écoute, il est tard, hein. On est en Suisse ici, hein. Donc, il faut arrêter. D'ailleurs, moi, je parle trop, là. Il m'a dit oui, hein. Je suis en train de dépasser, là. Je me dépêche. Il dit, il est tard, il faut les renvoyer, il faut qu'ils aillent dans des magasins acheter à manger. C'est ce qu'ils ont dit, hein. C'était normal de dire ça, c'est comme ça. Et Jésus a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Attends, attends, t'as pas compris. Il y a 10 000 personnes, là. Il dit, on n'a pas d'hôtel, pas de restaurant. Et Jésus faisait exprès. Qu'est-ce que tu peux donner? C'est 5 000 personnes. Jésus leur a demandé de s'asseoir par groupe de 50 ou 200, je ne sais plus, c'est à peu près des groupes, organisés, assis. Vous imaginez, les apôtres avaient donné 5 pains et 2 poissons. C'est la seule chose qu'ils avaient trouvée. Vous devez acheter une maison qui vaut 2 millions. Vous allez à la banque et vous dites, voilà, je n'ai que 2 000 francs. La banque vous sourit. Mais Dieu fait quoi? Moi, je prends. Il dit, ça, je prends. 2 000 francs, ça fait 2 millions. C'est comme ça qu'il raisonne. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Alors, ils ont donné. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Seigneur, merci. Il a prié. Il a dit merci pour le pain, merci pour le poisson. Quand on a un souci, un problème. Oh, Seigneur, c'est dur, vraiment, c'est dur. C'est vraiment une souffrance, c'est très dur, les combats spirituels. On n'essaye pas de comprendre que Dieu est en train de nous parler. Nous éduquer, nous former à faire quelque chose, à rentrer dans une dimension nouvelle. À rentrer dans une dimension nouvelle. Il ne peut pas y avoir de guérison si tu n'es pas malade. Non? Donc il ne peut pas y avoir de miracle si tu n'as pas un problème avant. Non? Donc quand tu as un problème, tu dis, zut, c'est super, il va y avoir un miracle. Oui. J'ai plein d'exemples, mais ça va être trop long. Et Marc il commence à me dire que ça devient trop, là. Alors, je vais terminer. Je vous laisse quelques petites phrases. Cette richesse du pauvre. Il y a des proverbes qui disent « Ceux qui donnent largement accroissent leur fortune, mais ceux qui épargnent s'appauvrissent. » C'est étonnant, ça, hein? Moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui épargnent. Moi, je sais pas comment vous faites. Moi, j'arrive pas. Et tout ce qui est bon, je sème. Moi, je donne. On donnera à celui qui a. Vous connaissez cette phrase, hein? Et il sera dans l'abondance. Et Jésus dit, même celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Essayez de penser ce que ça veut dire dans votre vie concrètement. Et la dernière phrase, Jésus nous apprend cela. Donnez aux autres et on vous donnera. On vous donnera à la mesure que vous donnez. Je vous demande pas de donner comme une magie. C'est pas un truc de donner. C'est pas une recette. Le don, c'est un don de cœur. Un don total. On sait que l'on sait donner de la bonne terre. Et c'est pour ça que moi je donne pas à un pauvre qui pense pauvre. Ne donnez pas si vous ne voyez pas que c'est de la bonne terre dans la chose dans laquelle vous donnez. Mais donnez. Apprenez que le don est un effet multiplicateur et non pas additionnel. On n'amasse pas des choses, mais on les multiplie. Et c'est ça, et c'est exactement la chose. Et c'est pas uniquement une question d'argent. Votre talent, commencez à le donner et vous le verrez se multiplier. Vos compétences, commencez à les donner et vous les verrez se multiplier. Votre complexe, vous êtes complexé? C'est pas un problème. Donnez-le à Dieu. et semez sur le peu que vous avez, et vous allez voir petit à petit les choses changer. Dieu crée ce qui n'existe pas avec une seule et même clé. C'est vous recevrez le don à la mesure que tu donneras. Les gens, tout le monde croit en Dieu. Mais peu font confiance en Dieu. Tout le monde a la foi. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, un journaliste qui parle à la radio, il a la foi. Comment il fait? Pour parler à un micro, moi je vous vois là. Mais là, il y a un micro, il ne voit pas les 250 000 personnes qui l'entendent. Il a la foi. Et moi, si Dieu me dit quelque chose, est-ce que je suis prêt à le croire? Mais pourtant, je ne le vois pas. Oui, mais il te dit quelque chose. Alors agis. Et en fonction de ça, il va se passer que la situation de pauvreté dans laquelle je suis, que j'estime avoir, le Seigneur demande, qu'est-ce que tu donnes?